Ami. Le podcast Guillaume Richardot, Franck Lefebvre.
Et quelle belle cloche que celle de Franck Lefebvre. Attention, j'ai pas dit que t'étais une cloche, hein, que tu faisais le son d'une belle cloche. Vas-tu bien, mon cher Franck?
Super, Guillaume, et toi?
Eh bien, écoute, je vais très, très bien. Je suis en grande forme. Et aujourd'hui, j'avais envie de parler d'un sujet qui, je suis sûr, va t'inspirer. Bah, on en a déjà parlé, hein, mais on dit souvent en Europe qu'on est un peu une colonie numérique des États-Unis parce qu'il y a énormément de choses, les Google, les Amazon, tous ces gros Apple et compagnie qui viennent des États-Unis. Mais quand même, en Europe, on a une énorme fierté et on n'en parle jamais. Enfin, on en parle, mais pas assez. Et je voulais avoir ton avis là-dessus. C'est un truc en quatre lettres. ASML. Tu vois de quoi je veux parler. On va plutôt parler art des puces.
Ouais, ASML, tu parles de ces fabricants, de ces merveilleuses machines. Hein. C'est hollandais?
Oui, alors c'est hollandais. Et alors, il y a souvent des chroniqueurs tech ou même pas tech qui sont pas très doués et qui disent que ASML fabrique des puces. Et c'est faux. ASML fabrique les machines qui fabriquent les puces. Très important de le rappeler parce que j'ai entendu plusieurs fois sur des gros médias qui ont pignon sur rue et qui parfois même appartiennent à l'État, parler vite fait du sujet sans trop le connaître, en disant ASML, le seul fondeur européen qui fait des puces. Non, ASML est le seul fabricant mondial qui fait les grosses machines qui font les puces, je précise.
Exactement. On peut peut-être rappeler comment... Donc, ça va être très vulgarisateur, hein, ce qu'on va pouvoir dire sur le sujet, parce que dès qu'on rentre dans la technique, on est sur des choses qui sont une complexité terrible. Et donc, je tiens à m'excuser a priori auprès des...
Non, mais ça va bien se passer, j'ai confiance en toi.
Qui pourrait nous... Mais comment on fabrique des microbes, comment on fabrique des puces d'une façon générale? Tout ça, ça part de silicium. Le silicium, hein, c'est ce dont est constitué le sable. Hein, c'est souvent comparé comme ça. Donc, c'est une structure cristalline. Il y a je pense que ça a été découvert dans le milieu des années 30, il y a des gens qui ont découvert ce qu'on appelle les semi-conducteurs. Le principe d'un semi-conducteur, c'est une matière qui soit va laisser passer le courant et qui, lorsqu'on va la modifier un petit peu, comme on va appeler ça du dopage, quand on va mettre un petit peu quelques atomes d'une autre matière dedans, eh bien, elle va moins ou pas laisser passer le courant. Et puis, je ne sais plus dans quel sens je l'ai dit. Mais, bref, tu vois l'idée, c'est qu'on a trouvé des moyens au milieu des années 30 pour faire en sorte qu'une matière qui n'est pas conductrice le devienne dans certaines conditions ou qu'une matière qui est conductrice arrête de l'être dans certaines autres conditions. Avec ça, on a fabriqué quelque chose qui est formidable, qui s'appelle le transistor. Le transistor... On peut voir ça comme un tuyau d'arrosage sur lequel on mettrait un robinet. Et donc, quand on essaie de faire passer l'eau dans le tuyau, et bien à l'autre bout du tuyau, il n'y a pas d'eau. Sauf que s'il y a un robinet, si tu allumes ton robinet, à l'autre bout du tuyau, va y avoir de l'eau. Et bien là, c'est exactement pareil, mais avec des électrons. Et le robinet, il va être lui-même constitué. Donc, imagine un robinet qui n'est pas tourné par quelqu'un, mais un robinet qui est tourné par un autre tuyau d'eau qui viendrait dessus. Donc, imagine, on a notre premier tuyau avec le robinet au milieu, vient dessus se brancher un autre tuyau, et donc, quand il y a de l'eau qui arrive par l'autre tuyau, ça va laisser passer l'eau dans le premier tuyau dont nous avons parlé. Suis-je clair?
Tout à fait.
Et si on arrête l'eau au niveau du robinet, eh bien, le tuyau principal également va s'arrêter. Et donc, avec ça, au début des années 30, on a fait ce qu'on a appelé les transistors, une des premières utilisations. Ça a été de faire des petites radios portables, parce que souvenons-nous...
Des transistors, hein.
Et exactement, on n'appelait pas par abus de langage, on appelait ça un transistor, parce que avant, pour avoir la radio, on obtenait un effet d'amplification, puisque le but du jeu, là, ce que ça va nous permettre de faire, ce dont je parle, c'est que ça va nous permettre de faire de l'amplification d'un courant à partir d'un autre courant. Donc là, je vais utiliser une autre métaphore, tu vois, si tu as un amplificateur dans ta chaîne Hi-Fi, ça se fait de moins en moins, hein, mais je pense que tous nos éditeurs voient le principe. Eh ben, on a un signal qui sort par exemple de notre lecteur de CD et qui est un signal électrique mais qui n'est pas fort du tout. Et si on veut faire un maximum de potins dans notre appartement pour embêter notre voisin, eh bien, ce qu'on va faire, c'est qu'on va amplifier ce signal. Et donc, pour amplifier ce signal, on va utiliser exactement le système que je viens de décrire là en utilisant l'eau comme métaphore. Pourquoi ? Parce que le deuxième tuyau d'eau, celui qui va conditionner le fait que l'eau passe dans le premier ou dans le second, ce qui est strictement un transistor, eh bien, on va pouvoir faire en sorte que le deuxième tuyau est un tout petit filet d'eau et que le premier en est un énorme. C'est-à-dire qu'il va y avoir un effet d'amplification et il y a un signal très faible qui va permettre de moduler un signal très fort. Et donc ça va être formidable pour faire de l'audio, par exemple, donc pour faire de la radio, puisque le principe de la radio, pas en DAB+, je parle de la radio de nos grands-parents, de la radio analogique, de la
même l'électrophone
hertzienne ou même l'électrophone. Mais la radio, c'est on utilise une antenne qui va capter un tout petit signal qu'on va chercher à amplifier pour obtenir un signal qui va pouvoir faire bouger les haut-parleurs de notre chaîne stéréo pour qu'on puisse entendre Guillaume et Franck qui causent dans le poste.
D'ailleurs, ça marche aussi sur, par exemple, une enceinte amplifiée qui, elle, par Internet, récupère le signal et il y a un petit ampli dedans, hein, dans toutes vos enceintes et les petits amplis qui permettent de faire ce que tu viens de décrire, c'est-à-dire de l'amplifier pour qu'on puisse l'entendre dans le haut-parleur qui, une fois que c'est amplifié, ça fait des vibrations sur la membrane, c'est un haut-parleur et on entend le son de Guillaume et de Franck Lefebvre qui racontent leurs âneries.
Exactement. Donc on est là, on va nous dire là qu'on est passé, qu'on est très loin des SML dont on parlait tout à l'heure, mais tu vas voir, on va y arriver. Hein. On aime bien travailler comme ça dans nos petites causeries. On aime partir de choses simples pour montrer comment plein de choses simples peuvent amener des grandes choses et comment des petits ruisseaux peuvent faire des grands fleuves. Donc là, on a expliqué comment fonctionnait un transistor. Et donc, on a expliqué rapidement comment le transistor était basé sur un matériau qu'on appelle un semi-conducteur. Et parmi les matériaux qui sont semi-conducteurs, on a des choses qui sont du... Il y en a un qui est très utilisé, qui s'appelle le silicium. Et donc, en prenant du silicium qui n'est a priori pas conducteur, en mettant en le dopant avec d'autres matières, les premiers, je crois, à être utilisés, ça doit être le germanium ou des trucs comme ça, mais enfin, on ne va pas rentrer dans ces détails-là. En tout cas, souvenons-nous qu'on arrive à faire des tout petits systèmes qui vont permettre d'amplifier un signal. Et c'est comme ça que, oui, on disait tout à l'heure qu'avant avant l'invention, donc dans les années 1920, bien entendu, pas 2010-2020, eh bien, quand on voulait obtenir ça, on utilisait les fameuses lampes, tu sais, qui étaient magnifiques, mais qui consommaient énergie, donc il fallait que ce soit branché sur le 220. D'ailleurs, à l'époque, c'était du 110, en France en tout cas. Et donc, on ne pouvait pas aller se balader sur la plage avec la radio, puisque la radio elle consommait beaucoup d'énergie, ou alors il fallait un grand fil, hein, voire un
très gros.
Et donc, grâce aux transistors qui peuvent eux fonctionner avec très peu de courant, eh ben, on a fait ces radios portables qu'on appelle les transistors. Poursuivons l'histoire. Ces transistors, ils permettent également, comme je l'ai dit, de servir comme interrupteur avec le courant passe, le courant passe pas. Et avec ça, on va fabriquer ce qu'on appelle des portes logiques qui sont la base de nos ordinateurs dans lesquels on va assembler ces transistors pour faire en sorte que dans certaines conditions, le courant passe et le courant ou le courant passe pas, puis le courant qui passe va venir activer du courant qui va passer ou qui va pas passer, et ainsi de suite. Et donc, avec des gigantesques réseaux de transistors comme ça, on arrive à faire les microprocesseurs qui sont au cœur de nos ordinateurs, de nos téléphones mobiles, de nos automobiles et de quasiment tous les gadgets qui peuplent notre quotidien. Et donc, on va avoir des dizaines, des centaines, des milliers, des millions, des milliards de transistors pour faire un bidule très complexe. Et donc, bien entendu, on ne va pas aller souder des milliards de petits appareils. La technologie qui a été développée, elle consiste à dire, tiens, ben, au lieu de faire des transistors indépendamment les uns des autres, on va faire ce qu'on appelle des wafers. Ce sont des galettes de silicium. Ces galettes de silicium, donc ça c'est fait dans des entreprises qu'on appelle des fondeurs. On prend le silicium, on va en faire des gros paquets, qu'on va mettre en tranches, on va obtenir des petites galettes. Et puis, sur ces galettes, on va faire plein de trucs. Sur ces galettes, on va pouvoir rajouter un peu de matière pour venir la doper, comme je disais tout à l'heure, mais on va pouvoir faire des trous, on va pouvoir faire des pistes conductrices, on va pouvoir faire plein de choses. Ça va ressembler un peu à un circuit imprimé sur lequel on met des composants, mais ça, on va le faire à l'échelle microscopique. Donc, quand je dis l'échelle microscopique, hein, la taille de gravure aujourd'hui qui est atteinte par les plus grands, je pense qu'aujourd'hui, on doit avoir une barrière aux alentours de 3 nanomètres. Tu vois, hein, un nanomètre, c'est un...
Oui, c'est pas gros, hein.
C'est un milliardième de millimètre, de mètre, pardon. Donc, un nanomètre, c'est un milliard... C'est vraiment, vraiment pas gros. C'est un millionième de millimètre. On arrive presque à un niveau atomique. Et donc, comment on arrive à faire ça? Eh bien, on arrive à faire ça, figure-toi, avec un système qui ressemble terriblement à la sérigraphie. Tu vois le principe de la sérigraphie, là. Si tu veux sérigraphier ton t-shirt, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas prendre une toile qui laisse passer l'encre, mais sur cette toile, tu vas mettre un vernis. Et puis ce vernis, tu vas dessiner les motifs que tu veux avoir sur ton t-shirt. Tu vas éclairer ce vernis avec des lampes UV ou quelque chose qui ressemble à ça. Et ce qui fait que ça va griller le vernis aux endroits qui va recevoir les UV et ça va le laisser intact aux endroits qui n'ont pas reçu les UV. Ce qui fait qu'une fois que tu l'auras lavé, si tu mets de l'encre dessus, l'encre va couler aux endroits qui auront été insolés, on appelle ça, qui auront été éclairés par les UV, et l'encre ne va pas couler aux endroits qui n'auront pas été insolés. Et donc, si tu mets ton t-shirt sous cette trame-là, tu mets ton encre, et ben tu vas avoir une impression sur ton t-shirt. C'est comme ça qu'on fait les t-shirts, c'est comme ça qu'on fait les affiches, on fait plein de trucs. Tu me suis toujours, Guillaume?
Oui, tout à fait, c'est un peu une espèce d'imprimante, en fait.
C'est une espèce d'imprimante, mais tu vois, qui part à partir d'un masque, hein, d'une espèce de stencil comme ça qu'on va fabriquer. Eh bien, figure-toi que pour graver des wafers, donc je rappelle, les wafers, ce sont ces tranches de silicium, pour venir les graver, faire des petits trous dedans, ou au contraire, rajouter un peu de matière, eh bien, on va utiliser ce même principe de la sérigraphie, mais avec des précisions très 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 fines. On disait tout à l'heure, les champions du monde, et on va tout de suite en reparler, les champions du monde, ils arrivent à quelque chose comme du 3 nanomètres. Et donc, ces machines à sérigraphier les wafers, il y a un grand faiseur mondial, un leader, qui s'appelle ASML, dont tu me parlais à l'instant. Et donc, on comprend bien que eux, ils ne font pas les wafers, ils font les machines qui vont permettre de faire ce qu'on appelle la gravure. Et donc, la gravure, elle va être faite, elle, chez ce qu'on appelle un fondeur. Et là, on arrive sur des sujets très très géopolitiques qui vont nous ramener à une actualité brûlante, parce que le fondeur le plus performant au monde aujourd'hui, il s'appelle TSMC. Ça te dit quelque chose, TSMC?
Oui, il fabrique les microprocesseurs, en fait.
TSMC, ça fait partie des entreprises qui fabriquent les
Taïwanais.
Exactement.
C'est pour ça qu'on parle de beaucoup de géopolitique.
Exactement. TSMC, ça veut dire Taïwan Semi-conducteur Company ou quelque chose. Oui, c'est ça. TSMC, c'est Taiwan Semiconductor Company. Et donc, ou Manufacturing Company. Et ça, c'est super intéressant, l'histoire de TSMC, parce que c'est une entreprise qui a été créée il y a bien, bien longtemps, hein, la préhistoire de l'informatique, en 1985 ou un truc, je me trompe peut-être.
Ah oui, c'est assez récent, en fait.
Mais oui, c'est super récent.
C'est né avec l'informatique, en fait.
Te souviens-tu, revenons au tout début, dans la première moitié des années 1980, sortent deux machines mythiques, quoi, qui vont devenir mythiques et qui vont changer le monde de l'informatique. Il y en a une qui s'appelle le Macintosh et l'autre qui s'appelle l'IBM PC. Le Macintosh, le principe du Macintosh, c'est toujours d'avoir une machine fermée. C'est Apple qui fait ça et qui ne laisse personne faire des clones de ces machines. Donc, ça n'a pas... bon, là, je sais que je vais en fâcher certains, mais ça n'a peut-être pas favorisé le développement et l'éclosion de l'informatique, en tout cas du hardware. Par contre, ce qui s'est passé du côté de l'IBM PC, c'est que IBM, eux, ils ont laissé n'importe qui faire des copies de leur machine. Tu te souviens de ces fameux clones, on appelait ça des clones. Donc, dans les années, au milieu des années 1980, on achetait soit un IBM PC, soit un clone IBM. Et ça, c'était fait à Taïwan parce que à Taïwan, il y a eu une volonté très, très, très forte d'un certain nombre de personnes au pouvoir politique qui étaient et des politiques et des industriels de développer cette industrie. Ils se sont dit, waouh, c'est génial, ça c'est l'avenir. Eh ben, on va mettre beaucoup d'argent public pour pousser les entreprises taïwanaises. Hein. Taïwan, c'est cette petite île qui est au large de Shanghai et qui s'appelait Formose avant que Chiang Kai-shek vienne. Bref, on va pas refaire cette histoire-là. Mais il y a eu des visionnaires politiques et industriels qui se sont dit, tiens, il faut développer cette industrie chez nous. Et donc, en développant l'industrie des clones, ils ont développé également le besoin pour faire des puces, pour faire des microprocesseurs, et ils se sont mis à développer toute une industrie. Donc, cette industrie, elle est aujourd'hui très...
très géostratégique, elle est très importante. Tout le monde a besoin de processeurs dans tous les domaines.
L'entreprise la plus emblématique, c'est TSMC, qui fait donc ses microprocesseurs depuis le milieu des années 80 et qui aujourd'hui est la plus avancée. Ce qui nous pose un petit problème, parce que j'avais dit qu'on ne parlerait pas de politique, mais on est bien forcé de parler de Taïwan et de l'histoire de Taïwan, puisque Taïwan aujourd'hui, quoi, Taïwan est né sous ce nom-là, hein, des contre-révolutionnaires chinois et surtout de Chiang Kai-shek et son armée, le général Chiang Kai-shek qui donc est arrivé à Taïwan avec une volonté contre-révolutionnaire forte, ce qui fait que Taïwan est devenu une espèce de petit morceau de la Chine, mais petit morceau démocratique. Il s'appelle République. On dit parfois Taïwan ROC, Republic of China. Eux revendiquent être la République de Chine et en face, la Grande Chine, celle que les Taïwanais appellent Mainland, le pays principal, elle, c'est la République populaire de Chine. Et donc, les Taïwanais, eux, ils considèrent qu'ils sont indépendants, mais les Chinois, pour eux, Taïwan, ex-Formose, fait toujours partie de la Grande Chine. Et donc, régulièrement dans le détroit de Formose, là, donc il y a quelques kilomètres, quelques dizaines de kilomètres qui séparent les deux, hein, et bien tout le monde vient se renifler les fesses avec des F-16 et des chasseurs chinois. C'est-à-dire que l'idée, c'est qu'il y a régulièrement des manœuvres militaires. Et puis, ça frotte un peu. Et puis, on sait bien qu'un jour... Eh ben, ils vont franchir, quoi. Ça, on peut penser qu'ils vont franchir le détroit et que la Grande Chine va aller réenvahir. Mais pour eux, c'est normal. Ils considèrent que c'est chez eux. Ils vont aller récupérer Taïwan. Et à ce moment-là, ça va frotter. Et donc, pendant des années, on s'est dit, oui, mais il n'y a pas vraiment de risque parce que, comme il n'y a que à Taïwan que se font un certain nombre de produits très importants pour le reste de la planète, comme des microprocesseurs de très haute technologie, Eh bien, si jamais la Chine vient envahir Taïwan, il y a le reste du monde, et en particulier les États-Unis, qui ne vont pas laisser faire. Donc ça c'est vrai jusqu'à... C'est certainement vrai encore aujourd'hui, et c'était encore plus vrai il y a 4 ou 5 ans. Sauf que le monde, prenant conscience de ce risque-là, eh bien, il y a des endroits, donc aux États-Unis, par exemple, ils sont en train de construire des usines, des fondeurs capables de faire ces puces, et donc de plus dépendre de Taïwan. En Europe, on en a parlé il y a un an ou deux, il y a également des grands programmes. Il y en a quelques-uns en France, à Grenoble, il y a ST Microélectronics qui, par exemple, développe des choses dans le domaine et développe des capacités de production. Donc, on peut se dire que une fois que chacun sera capable de fabriquer ça chez lui, eh ben plutôt que d'aller faire péter des bombinettes en cas de conflit au niveau de Taïwan, si la Chine décidait de franchir le détroit, eh ben on peut imaginer, on peut craindre, on peut regretter, je ne sais pas, là je laisse chacun construire sa pensée, que finalement le reste du monde n'ira pas prendre grand risque. Et c'est bien malheureux pour nos Taïwanais dont l'actualité nous parle de façon assez cruelle puisque c'est une zone sismique. Et il y a quelques jours, on a vu la terre trembler là-bas. Il faut préciser que Taïwan, c'est un pays hautement démocratique. Aujourd'hui, ce n'était pas du tout le cas quand Chiang Kai-shek est arrivé là-bas, mais c'est un pays hautement démocratique, c'est un pays extrêmement moderne. Voilà. Et donc, ça illustre bien ça, comment la technologie, comment nos petits gadgets du quotidien, en définitive, peuvent être le ferment de l'évolution de l'humanité, d'une grosse partie, et en tout cas, les raisons des évolutions majeures dans la géopolitique qu'on va pouvoir observer dans les années qui viennent.
Oui, et puis il est bon, et c'est un peu pour ça que je voulais faire cette chronique, il est quand même bon de rappeler qu'on passe notre vie à dire les Américains, les Américains, les Américains, et c'est vrai qu'ils sont très très bons dans plein de domaines, mais quand même, en Europe, on a ASML qui est le plus gros et je crois l'unique fabricant des machines qui elles-mêmes fabriquent les processeurs et qui sont en partie fabriqués à Taïwan. Donc c'est bon de le rappeler que l'Europe a quand même sa patte, elle joue quand même bien sa patte.
Donc c'est très juste, Guillaume, hein, mais avoir la machine sans avoir le reste de l'infrastructure, ça sert pas à grand chose. Donc, dans le cas d'une...
Oui, mais je veux dire, je suis d'accord avec toi, mais on n'est pas complètement perdu, on n'a pas complètement rien, on n'est pas juste des suiveurs, quoi. Au moins, dans ce domaine-là, on fabrique quelque chose. D'ailleurs, j'ai appris, en me regardant un peu sur le sujet, qu'au tout début d'ASML, dans l'aventure, il y avait Philips, qui aujourd'hui a tout revendu pour se consacrer juste au médical. Hein. Ils ont même vendu leurs ampoules. Mais au début, il y avait Philips dans l'histoire de la naissance d'ASML.
Oui, tout à fait. Mais de toute façon, hein, tout dans le domaine de l'électronique, tout ce qui se fait du côté d'Eindhoven est signé Philips, hein, donc qui a nourri l'histoire de l'électronique avec un nombre de produits et de brevets absolument phénoménal.
Mais oui, tout à fait. Hein. On rappellera la cassette, le CD, plein d'autres choses. L'ampoule, les premières ampoules, Philips était dans la partie, c'était le spécialiste de l'éclairage. Il ne faut pas l'oublier. Bah, c'était passionnant tout ça. J'avais envie de faire un petit cocorico européen pour dire bah oui, quand même, chez nous, on a ASML. Voilà. Et puis comme ça, on a pu un peu raconter exactement ce que font ces gens-là. Et puis on a parlé des microprocesseurs, de Taïwan, de toutes ces petites choses que vous avez partout dans vos objets. On le rappelle, hein, de la voiture au lave-vaisselle en passant par votre machine à café. Et peut-être même là. La montre de Franck Lefebvre, à moins que tu aies une vieille montre encore toute mécanique, et bien peut-être qu'il y a tu as des microprocesseurs au poignet. Est-ce que tu as des microprocesseurs au poignet?
Non, pas du tout. Les montres que j'ai au poignet sont toujours des montres mécaniques. Non, je n'ai pas de microprocesseur au poignet.
Ah, je reconnais bien là ton côté traditionnel parfois, et tu as bien raison, vive les belles montres. Mon cher Franck, encore merci de cette causerie dans Ami le podcast diffusé sur Tech Radio. Et puis si vous voulez nous faire un coucou, hein, toujours la même punition, 01 76 21 18 10, ou laissez-nous des commentaires dans vos messageries de podcast. Mon cher Franck, à bientôt pour de nouvelles aventures.
À bientôt, Guillaume.
Ami, le podcast 01 76 21 18 10. Si vous voulez commenter l'infotech.